Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Libération au Cameroun d'une religieuse et de deux prêtres missionnaires après presque deux mois de détention. Ils avaient été enlevés par des inconnus. Une bonne nouvelle qui a été accueillie avec joie au Vatican. Appel du pape pour l'Ukraine et la République centrafricaine pour que soient dépassées les incompréhensions et que soit recherché le dialogue et la pacification. Regina Celli, le pape revient sur l'ascension, Jésus ne nous abandonne pas, il nous accompagne chaque jour et obtient du Père le pardon de nos péchés. Alep, ville meurtrie par la guerre civile qui ravage la Syrie, nous entendrons le témoignage de Mgr Antoine Odo, archevêque chaldéen de la ville, il nous racontera son quotidien. L'invité du dimanche de Sœur Catherine Aubin, c'est Clémence de Rouvray, qui nous parlera de Vladimir Gika. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Commençons donc ce rendez-vous par cette bonne nouvelle qui nous vient du Cameroun. La religieuse canadienne Gilberte Bussier et les deux prêtres missionnaires italiens Gian Antonio Allegri et Gianpaolo Maria ont été libérés dans la nuit de samedi à dimanche. Enlevés début avril dans le nord du Cameroun, ils ont passé près de deux mois aux mains de leurs ravisseurs dont l'identité demeure inconnue. Leur libération est intervenue après une semaine de négociations, probablement au Nigeria. La nouvelle a été transmise au pape François, heureux de cette issue. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le père Lombardi, a précisé que le pape continuait toutefois de prier pour que toute forme de violence, de haine et de conflit dans différentes régions de l'Afrique et dans d'autres parties du monde puisse être dépassée. Il a rappelé que d'autres personnes étaient toujours victimes d'enlèvements un peu partout dans le monde. À peine la nouvelle connue de cette libération, Davide Maggiore, de la rédaction italienne, a appelé Mgr Philippe Albert Joseph Stevens, l'évêque émérite de Maroua Mokolo, dans le nord du Cameroun. Il a pu rencontrer les religieux juste après leur libération.
Les trois religieux ont été libérés, je viens de les rencontrer, et ils sont en bonne santé grâce à Dieu. Ils sont bien amaigris, évidemment, voilà, mais ils sont là et vivants et en bonne santé, et nous rendons grâce à Dieu.
Les religieux ont dit quelque chose sur les conditions dans lesquelles ils étaient détenus?
Non, ils n'ont absolument rien dit de cela. Ils n'ont pas du tout parlé de cela. Leur première question a été « Quel est notre nouvel évêque ?» Parce qu'on a un nouvel évêque qui vient d'être nommé et ils ne le savaient pas. Après, la conversation a été très rapide parce qu'ils ont été directement emmenés dans l'avion pour Yaoundé. Ça fait qu'on s'est vu seulement pendant 2 minutes. Mais ils sont là, ils sont vivants et ils sont en bonne santé et le moral est bon.
Il y a un appel que vous voulez faire.
Tous ceux qui prennent les armes et qui prennent les otages, qu'ils arrêtent tout cela, qu'ils brûlent leurs armes et qu'ils s'ouvrent à l'amour du Seigneur là. Dieu les aime et Dieu demande la conversion de leur cœur et Dieu demande leur amour et la paix. C'est ça que je demande moi au ravisseur.
Mgr Stevens se joint par Davide Maggiore. Retournons maintenant au Vatican, où comme tous les dimanches, le pape a récité la prière du Regina Celli depuis la fenêtre des appartements pontificaux devant quelques 60 000 personnes. Il est revenu sur deux conflits qui ne cessent de le préoccuper, l'Ukraine, où la crise perdure malgré la présidentielle de dimanche dernier, et la République centrafricaine, toujours confrontée au chaos. Je renouvelle mon appel, plein de tristesse à toutes les parties impliquées pour que soient dépassées les incompréhensions et que soit recherché avec patience le dialogue et la pacification, a-t-il notamment déclaré. Le pape a également évoqué la Syrie au travers d'une initiative italienne menée notamment par des cyclistes et qui s'appelle « Un kilomètre pour la Syrie ». Avant la récitation du Regina Celli, le pape est revenu sur l'ascension, fêtée jeudi en France, mais ce dimanche en Italie. Hélène Des Tombes.
L'ascension n'est pas une séparation, c'est au contraire une sorte de nouveau départ. D'une part, celui du Christ vers le Père et celui des apôtres qui vont de par le monde pour faire de toutes les nations des disciples. Au Père, Jésus apporte un cadeau, ses plaies, le prix du pardon que tu donnes. Le pape explique alors que quand le Père regarde les plaies de Jésus, il nous pardonne toujours, non pas parce que nous sommes bons, mais parce que Jésus a payé pour nous. Jésus, en retournant auprès de son Père, fait voir le prix du pardon. Jésus ne nous abandonne donc pas, même si nous ne le voyons pas avec les yeux. Il est là, il nous accompagne, il nous guide, il nous prend par la main et nous relève quand nous tombons. Il est présent pour tout le monde et surtout, précise le Saint-Père, pour les chrétiens persécutés et discriminés et pour toutes celles et ceux qui souffrent. Jésus est également présent via l'Église qu'il a invité à prolonger sa mission. C'est un mandat précis, il n'est pas facultatif. La communauté chrétienne est une communauté en sortie, en partance. Dans l'œuvre apostolique, nos forces, nos ressources, nos structures ne suffisent pas, même si elles sont nécessaires. Sans la présence du Seigneur et la force de son esprit, notre travail, même bien organisé, sera inefficace. Un rappel adressé à chacun de nous.
Hélène Détombe. Ce 1er juin est aussi la journée mondiale des communications sociales, dont le thème est la communication au service de la culture de la rencontre. Le pape à ce sujet a déclaré « Les moyens de communication sociaux peuvent favoriser le sens de l'unité de la famille humaine, la solidarité et l'engagement pour une vie digne pour tous. Prions pour que la communication sous toutes ses formes soit au service de la rencontre entre les personnes, les communautés, les nations, une rencontre fondée sur le respect et sur l'écoute réciproque », a-t-il notamment déclaré. François est revenu également sur la béatification de Mère Espérance, née en Espagne sous le nom de Maria Josefa Alama Valera, fondatrice en Italie des Servantes et des Fils de l'Amour Miséricordieux, que son témoignage aide l'Église à annoncer partout avec des gestes concrets quotidiens l'infinie miséricorde du Père Céleste envers chaque personne. Nous vous parlions un peu plus tôt de l'Ukraine et de la Centrafrique qui préoccupe le pape. Il est un autre conflit encore plus meurtrier auquel il pense également beaucoup, c'est la Syrie. Cette semaine a lieu une réunion au Vatican des organismes caritatifs catholiques qui opèrent au cœur du conflit sous l'égide de Coronum. Parmi les participants, Mgr Antoine Odo, archevêque chaldéen d'Alep et président de Caritas Syrie. Il nous décrit son quotidien dans la ville qui fut le poumon économique du pays avant le début de la guerre.
Autour de nous, il y a au moins 4 fronts où on se bat. On entend l'aviation qui bombarde, l'aviation militaire qui attaque des zones de groupes armés. Ça fait de fortes déflagrations et des bruits terribles. Mais on n'a aucun accès à une information objective. C'est toujours des approches très générales. Et c'est très inquiétant parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. De notre côté, on a presque tous les jours des roquettes qui sont envoyées sur les quartiers qui sont dans les mains sous l'autorité du gouvernement. Et c'est toujours à partir de midi et jusqu'à une certaine heure, des roquettes qui tombent ici et là dans tous les quartiers. Et il y a des victimes, des blessés, des morts. Mais ça crée beaucoup d'inquiétude et de tension pour les gens. Avant, j'avais l'habitude de marcher beaucoup, de faire des promenades pour sentir l'ambiance de la ville. Maintenant, je ne marche pas dans les rues parce que c'est toujours risqué. Je dis, c'est inutile de prendre des risques.
Et est-ce que vous avez un message à lancer ?
Nous voulons la paix, que vraiment les grandes puissances puissent mettre tout leur poids avec tous les gens de bonne volonté, qu'on arrête cette guerre, qu'on arrête les armes, qu'on cherche ensemble une solution politique sans ingérence de l'extérieur, sans recours aux armements. Parce que vraiment, c'est une question de conscience, c'est une question d'humanisme, c'est une question de stabilité au niveau de la Syrie, de la région et du monde entier.
Mgr Antoine Odo, archevêque chaldéen d'Alep, au micro d'Audrey Radondi. C'est l'heure l'heure de passer à la seconde partie de ce magazine avec l'invité du dimanche. Et aujourd'hui, cette invitée est une passionnée. Elle s'appelle Clémence de Rouvray et après avoir enseigné pendant 20 ans, elle a commencé un travail de recherche scientifique à l'École pratique des hautes études à Paris au groupe de sociologie des religions et de la laïcité sur Vladimir Gika. Celui-ci fut diplomate, apôtre de la charité auprès des déshérités, précurseur de l'écuménisme de la banlieue parisienne à l'Europe de l'Est. Il est mort en martyr en 1954 des suites des mauvais traitements qu'il a reçus dans l'une des plus sinistres prisons politiques communistes de Roumanie. Interrogée par Sœur Catherine Aubin, Clémence de Rouvray nous parle de sa passion pour cette personnalité impressionnante du XXe siècle.
Clémence de Rouvray, vous êtes historienne et on peut dire d'une certaine façon que vous êtes entrée en religion, entre guillemets, avec une personnalité roumaine, Vladimir Gica. Comment vous l'avez rencontré? Pourquoi, après 20 ans d'enseignement, vous vous êtes mis à entrer dans cette recherche sur Vladimir Gica?
Alors, en fait, voilà, je suis, disons, apprentie historienne, puisque j'ai repris des études, effectivement, pour m'intéresser de plus près à la figure de Vladimir Gica. Alors, je l'ai découvert, si j'ose dire, par hasard. C'est en lisant « Pensée pour la suite des jours », que je ne connaissais absolument pas. Le nom de l'auteur m'était complètement inconnu. J'ai été séduite, en fait, par l'ouvrage. Et après avoir fermé la dernière page de l'ouvrage, j'ai voulu savoir qui était l'auteur. Alors j'ai cherché un petit peu, j'ai découvert qu'il y avait des biographies qui avaient été écrites assez vite, finalement après la mort de ce personnage qui à l'époque m'était complètement inconnu. Et j'ai commencé par lire la biographie écrite par Jean Daujat, qu'il avait très bien connue, puis celle de Michel de Galzin. C'est à Michel de Galzin, en fait, que je dois ma passion pour Vladimir Gica.
Pouvez-vous nous dire un aspect, une lumière, quelque chose de lumineux qui a fait que c'est une certitude, je dois connaître ce personnage?
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord été séduite par les différentes activités qu'il avait. C'est-à-dire, je me suis dit, mais quel est ce personnage, en fait, qui a été lié à tous les événements majeurs du XXe siècle et comment s'est-il qu'on n'en ait plus jamais entendu parler? Je me suis dit, c'est peut-être tout simplement parce que moi, je ne connais pas, j'y connais rien, donc c'est normal que je ne le connaisse pas. Mais c'était quand même une figure très oubliée chez nous en France, alors qu'il a tenu une place très important d'un point de vue spirituel, intellectuel. Alors je pense particulièrement au milieu maritain, mais pas uniquement. L'Union des Églises, qui était pour moi un sujet que je connais très mal encore, mais qui me passionne. Alors je me suis intéressée en amateur, et puis je me suis aperçue qu'il était possible, en fait, à l'École pratique des hautes études, où je suis inscrite maintenant, de présenter un dossier, de trouver un professeur qui accepterait de suivre ce travail.
Alors dites-nous, Clémence de Rouvray, l'angle sur lequel vous vous êtes appuyée, vous vous appuyez pour faire votre doctorat.
Ça a été un tout petit peu difficile et ça reste difficile parce que c'est un homme qui a touché à tellement de choses que de trouver une ligne, un fil conducteur, une ligne directrice reste malaisé. Bon, il y a quelques semaines, il y a une idée qui est un peu ressortie, c'est en fait l'homme des frontières ou l'homme sans frontières. Point d'interrogation. Il y aurait trois angles, c'est-à-dire l'homme des frontières géographiques, puisque la famille Gica est d'origine albanaise, mais régnait sur les principautés de Moldavie particulièrement et de Valachie. Mais famille Gica élevée en France, donc voilà, Albanie, Roumanie, France pour les frontières géographiques, frontières religieuses puisqu'il est orthodoxe et qu'il devient catholique, et frontières que l'on pourrait appeler ou politiques ou diplomatiques, ça c'est encore à préciser, à affiner, parce que sans être diplomate lui-même, il a servi, il a été agent diplomatique non officiel, par exemple entre le Saint-Siège et la Roumanie, ou bien il a contribué d'une certaine manière à la reprise des relations entre la France et le Saint-Siège.
Voilà. Alors il y a un aspect aussi qui m'est apparu quand j'ai regardé la figure de Vladimir Gica. On parle de lui et de sa théologie du besoin. Vous pourriez nous en dire quelques mots? Est-ce que là aussi, il n'y a pas une façon d'aller aux frontières, aux besoins des plus pauvres, des marginaux? Il a été aussi très proche de tous ceux qui étaient loin.
Oui, exactement. Ça, c'est certain. Alors, théologie du besoin, liturgie du prochain. Alors, ce sont effectivement les deux aspects de toute l'attention qu'il porte effectivement aux plus pauvres, quel qu'il soit, que ce soit une pauvreté matérielle ou une pauvreté spirituelle. C'est vrai que là, il y a une espèce de frontière. Ce qui m'intéresserait, moi, de travailler plus en profondeur, c'est éventuellement ce qu'il a pu emprunter à la liturgie de Saint-Jean Chrysostome et à ce qu'on appelle aussi le sacrement du frère. Donc, moi, ça m'intéresserait beaucoup en présentant, si vous voulez, à la fois la théologie du besoin de Vladimir Gicka et cette pratique que représente la liturgie du prochain, de travailler ces deux inspirations. Ce que je voudrais creuser aussi, c'est la spiritualité de Saint-Vincent de Paul. Donc, on a les deux là aussi. On a à l'intérieur de cette pratique de charité une frontière commune, c'est limitrophe entre l'Orient, avec Saint-Jean Chrysostome et le sacrement du frère, et l'Occident, la spiritualité de Saint-Vincent de Paul.
Quand on entend le pape parler des périphéries, parler d'aller vers les plus pauvres, de sortir de soi, et quand on vous entend parler de Vladimir Gicka, on peut pas s'empêcher de faire des parallèles.
Oui, alors effectivement, c'est sûr, je pense que ce souci d'aller vers le plus pauvre, quelque chose qu'on peut retrouver avec le pape François, ce que je me dis aussi, pour ma part, j'essaye d'inscrire plutôt Vladimir Gicka dans son époque. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y aurait forcément une contradiction avec ce que dit le pape François, mais j'aimerais d'abord comprendre comment il s'inscrit dans son époque et avec les inspirations dont on a parlé là, dont on vient de parler, que ce soit orientale ou occidentale, et puis éventuellement voir ce que on peut faire comme comparaison avec l'époque actuelle.
Mais si cette personne de Vladimir Gicka vous a tant impressionné, attiré, j'imagine aussi qu'elle a quelque chose à vous dire et quelque chose à nous dire.
Oui, ça c'est évident. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que je ne pense pas, enfin très simplement, qu'on passe des heures, des jours et des semaines à travailler sur quelqu'un d'abord qui vous ennuie, c'est pas possible, et sans que ce quelqu'un vous apporte quelque chose. J'avais été extrêmement touchée par Pensée pour la suite des jours, dont je me permets de recommander la lecture, parce que d'abord c'est extrêmement facile, ce sont des pensées synthétiques. Elles me font penser un tout petit peu aux apophtegmes du Père du désert.
Vous pouvez nous en donner une ?
Et Vladimir Gicka explique que la joie est égale à la souffrance qu'on éprouve, que l'intensité de la joie que l'on peut éprouver est égale à l'intensité de ce que l'on peut souffrir. Ou bien une autre aussi qui est très belle, c'est penser que les moments heureux que l'on vit ne sont pas toujours heureux pour les autres.
Alors, une dernière question, Clémence de Rouvray. Quand on écrit sur un personnage aussi fascinant, qu'est-ce qu'on souhaite donner aux autres ?
Je sépare peut-être deux domaines qu'il ne faudrait pas séparer, mais le domaine historique et le domaine spirituel. Parce que ma réflexion va peut-être paraître un peu brutale, mais je ne tiens pas, si vous voulez, à faire une hagiographie. C'est-à-dire que je souhaite présenter le personnage tel qu'il est, avec toutes ses grandeurs et éventuellement ses contradictions. Je voudrais essayer, dans la mesure du possible, d'abord de restituer le personnage dans son époque et essayer de comprendre quel rôle il a eu. Donc ça, ce serait la partie, si vous voulez, historique à laquelle je suis très attachée. J'essaye de faire un travail de future historienne.
Oui. Et ce qui est important aussi dans ce que vous dites, c'est finalement trouver comment ce genre de grande personnalité s'est trouvé à la bonne place au moment où il fallait.
Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et en même temps, ce n'est pas quelqu'un de premier plan. C'est effectivement une grande personnalité, mais comme je dis peut-être de façon trop simple, ce n'est pas un évêque, ce n'est pas un supérieur d'ordre, ce n'est pas un responsable, je ne sais pas moi, d'une congrégation, enfin de tout ce qu'on voudra. C'est quelqu'un qui est en second plan, mais dont le rôle est quand même important et, je pense, est encore à préciser.
Voilà. Et l'autre plan ?
Alors l'autre plan, c'est le plan spirituel. Et donc là, c'est certain qu'il y a une foi qui est très grande, une charité aussi, mais je pense une vie intérieure, une réflexion intérieure, et je reviens aux pensées, vraiment les pensées pour la suite des jours, parce que ce sont des choses très simples, des phrases très courtes, extrêmement profondes, et l'ouvrage, vous pouvez l'ouvrir à n'importe quelle page, il n'y a pas d'ordre si vous voulez, et je pense un tout petit peu, je ne sais pas si la comparaison est juste, mais un tout petit peu comme les psaumes. Vous prenez votre livre des psaumes, vous pouvez le lire à n'importe quel moment, et un moment à un autre, toujours, ça vous parle. Ça correspond à une situation, à une peine, à une joie, parce que c'est profondément humain. C'est très spirituel, mais c'est profondément lié à toutes les circonstances de la vie.
Voilà, c'était Clémence de Rouvray. Un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. C'est ainsi que prend fin ce magazine. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure.